Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Pendant deux émissions, nous allons vous présenter des fouilles et des découvertes récentes qui ont été réalisées donc dans les quartiers Babour et Saint-Brice, autour du sanctuaire gallo-romain et de l'église Saint-Martin-en-Val. Nous sommes aujourd'hui en présence de Bruno Bazin, responsable des fouilles archéologiques, et Émilie Porta, qui est anthropologue aussi, au sein du service archéologique de la ville. Nous évoquerons dans ce premier volet l'histoire de l'église Saint-Martin-en-Val, mais aussi les pratiques funéraires qui ont été observées. Bruno, Émilie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé donc ensemble sur les fouilles de cette église. L'édifice jouxte l'abbaye Saint-Brice. Elle est actuellement fermée au public et peut-être méconnue. Bruno, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors l'église en fait est fermée à peu près depuis une vingtaine d'années. Elle a eu une phase de restauration à partir de 2011. La toiture a été refaite et on a investi les lieux depuis 2013.
Et pourquoi fouillez-vous dans cette église ?
Alors, pour deux points. Un premier, il y a eu des travaux donc, de restauration, comme je disais. Il y avait des passages électriques, de câbles électriques qui allaient être mis en place. Et pour cette raison, on a ouvert des premiers sondages dans la nef. Et la deuxième chose plus scientifique, on va dire, c'est qu'à cet endroit se trouve, selon l'hypothèse qu'on avait émise, le temple du grand sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-en-Val. Et l'idée, c'était de faire la jonction entre cette période antique et la période de l'église médiévale.
Alors ça, on le verra un peu plus loin dans l'émission, mais est-ce que cette église, avant cela, avait fait l'objet d'études ?
Il y a eu quelques études auparavant, on la connaît par quelques textes, des restaurations au XVIIe et XIXe siècle, des fouilles au XIXe et puis quelques éléments, des écrits sur l'architecture, on va dire, au XIXe et au XXe siècle.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement et sommairement vos interventions au cœur de l'édifice ?
Alors, l'intervention porte principalement sur un sondage qui est situé au milieu de la nef, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui a été ouvert à partir de 2013 et depuis 2016, donc cette année, on est ce qu'on appelle en fouille programmée sur 3 années, c'est-à-dire de la véritable recherche sur le bâtiment.
Et grâce à ces interventions, quels sont les plus anciens vestiges que vous avez retrouvés à ce jour ?
Il s'agit en fait d'inhumations datées du 5e siècle après Jésus-Christ, de l'époque mérovingienne.
C'est un point qu'on abordera donc un peu plus loin avec Émilie. Bruno, vous allez nous faire parcourir donc les siècles grâce à un survol historique et architectural de l'église dans un premier temps. Puis au cours de l'émission, on reviendra plus en détail sur les fouilles qui ont débuté en 2013. Et on terminera avec Émilie pour aborder plus spécifiquement les pratiques funéraires qui ont pu être donc étudiées sur le site. Bruno, on va vraiment là plonger au cœur de notre sujet et au sein du quartier Saint-Brice-Saint-Martin-Val. Où est-ce qu'on se situe là? Où débute notre voyage?
Alors, il s'agit du quartier de Saint-Brice qui est situé au sud-est de la ville de Chartres, à l'emplacement, pour ceux qui connaissent, des anciens abattoirs rue des Babours. L'église de Saint-Martin-en-Val, elle se développe entre la rue de Saint-Martin-en-Val, rue Georges Brassens et la place Saint-Brice. Au sud, le secteur est occupé actuellement par les anciens bâtiments conventuels, donc le cloître, daté du XVIIe et XVIIIe siècle, et par l'hôpital et les hospices de Saint-Brice, qui ont été construits à partir de 1890. Et au nord-ouest, on a les nouvelles habitations construites à différentes périodes.
Et à quelle époque donc débute l'occupation de ce quartier ?
Alors, on connaît l'occupation à partir de 70 après Jésus-Christ, avec la construction du grand sanctuaire antique qui fait plus de 6 hectares. La galerie occupe un espace assez grand, hein, puisqu'elle est au nord vers la rue d'Alfred Piébourg, à l'est rue Saint-Martin-en-Val, au sud on sait qu'il existe donc les vignes de Saint-Brice, et à l'ouest la galerie traverse le parking de l'hôpital et le terrain des anciens abattoirs. Le temple, comme je disais tout à l'heure, il se déploie probablement rue Vengeon, en face de l'église actuelle de Saint-Martin-en-Val, et on sait que le sanctuaire est abandonné au cours du 3e siècle après Jésus-Christ.
Et Bruno, qu'y a-t-il autour de cet immense sanctuaire à cette époque ?
Alors, on connaît quelques informations par différentes fouilles archéologiques, notamment l'existence d'ateliers de potiers, de fours à chaux, et puis surtout la présence rue de Reverdy d'une carrière et d'un espace funéraire dédié aux tout-petits.
Alors vous nous avez dit que donc, le sanctuaire est abandonné à partir du IIIe siècle, donc je suppose que l'occupation du courtier va se poursuivre au-delà, notamment avec la construction de l'église Saint-Martin-en-Val. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cet édifice religieux? Est-ce que c'était un édifice important à l'époque médiévale pour la ville de Chartres?
Oui, c'est un édifice extrêmement important. On sait que l'église de Saint-Martin-en-Val est le seul vestige d'un monastère. On sait que l'existence de cet édifice est antérieure donc au XIe siècle, l'église qu'on connaît actuellement. La première mention historique de Saint-Martin apparaît au IXe siècle dans le texte de la vie de Saint-Lubin, qui est un des premiers évêques de Chartres qui était en place en 549 à 552. Et on sait qu'il reçoit sa sépulture au sein de l'église Saint-Martin-en-Val.
D'accord. Et quelle pouvait avoir la forme de ce premier édifice dit de Saint-Martin-en-Val?
Alors, on ne connaît pas grand-chose de cette première église. Hein, et les fouilles n'ont pas mis en évidence d'éléments. Il peut s'agir d'une chapelle funéraire en bois ou en pierre, un oratoire, une petite église aussi.
Et est-ce qu'on a d'autres mentions dans les textes, justement, de Saint-Martin-en-Val?
On connaît le monastère dans la charte d'Aganon Vétus, le cartulaire donc bien connu de Saint-Père-en-Vallée, pardon, qui est daté du XIIe siècle, où Saint-Martin-en-Val est cité en 930.
D'accord. Et par la suite, comment va évoluer ou comment évolue ce monastère?
Alors, on sait qu'au XIIe siècle, il est rattaché à l'abbaye de Marmoutier. Il devient alors donc un prieuré relativement prospère. Au milieu du XIVe, une partie importante de l'église, dont la nef et les bas-côtés, sont endommagées suite à différentes hostilités anglo-françaises. C'est à cette période qu'est construite, en dehors de donc dans l'enceinte claustrale, l'église paroissiale Saint-Brice, qui a aujourd'hui disparu. Mais on connaît des vestiges par une fouille qui a été réalisée rue Vengeant.
Et je crois aussi qu'il y a plusieurs autres faits historiques qui endommagent le monastère et puis l'église.
Oui, au XVIe siècle, principalement, on a les calvinistes, les ligueurs, on a Henri IV aussi qui vient sur Chartres. Les bâtiments sont pillés, incendiés, démolis, et à partir du milieu du XVIIe, l'église Saint-Martin-en-Val est quasi totalement en ruine. C'est à cette période, à partir du milieu du XVIIe, que l'abbé Ferron entame une restauration quasi totale de l'église.
Et c'est à cette époque que le monastère devient un couvent ?
Au XVIIe siècle, oui, au milieu du XVIIe, l'église et l'enclos sont achetés au profit de la communauté des frères capucins de Saint-Lubin-des-Vignes, à Chartres. Et au XVIIIe, le couvent est vendu comme bien national et transformé en hospice des pauvres. Donc l'église Saint-Martin-en-Val en devient alors la chapelle. Vers la fin du XIXe siècle, en 1886, l'église est classée monument historique.
Eh bien, c'est sur cette information que nous allons clore cette première partie de l'émission. Merci Bruno pour cet aperçu historique rapide du quartier et cette présentation de l'église Saint-Martin-en-Val. On se retrouve juste après une pause musicale pour percer davantage les mystères de l'église de Saint-Martin-en-Val. Yeah. The locks alongside Taiwan. Now and then you blow. Big tune again. Yeah. Listen tune again. Listen tune again. The locks, Taiwan. Listen tune again. Right, that's right. We ride and we ride again. Right about now. Right about how. We ride on the rhythm, roll up the high grade. Right on the place, see me on the main stage. Yes, motherfucker, it's not gonna change. With my lyrics, I cover a wide range. Blue pen, I roll on the white page. My raging face, you in danger, bitch. Yeah. We step on the rhythm like Game of Thrones. Can you win the sword and come back alone? We turn the dance floor to a danger zone. You won't be safe until you reach home. You know them by me name Taiwan. Put your head on the game right on. When you're rhythm with your beers, when you're born, this a version, you know it's a real hit song. We'll make you roll, we'll make you rock. We'll make you bubble and we nice off this back.
Big time, fooling round with Miss Brown, Daddy, Betsy, Clementine.
Cette émission est consacrée aujourd'hui à l'église Saint-Martin-en-Val, située dans le quartier de Saint-Brice, dans la ville de Chartres. Je suis en studio avec Bruno Bazin, responsable des fouilles dans l'édifice. Et grâce à vous, Bruno, nous allons maintenant entrer virtuellement dans l'église et revisiter l'édifice. Pouvez-vous nous parler du plan et de l'architecture de l'église en elle-même ?
Alors, les diverses recherches archéologiques ont été menées dans l'environnement de ce monument ont montré que les fondations de l'édifice actuel datent du premier quart du XIe siècle. On sait que peu d'éléments subsistent de cette église du XIe siècle, à l'exception d'une petite arcade dans le déambulatoire qui pourrait constituer les restes d'un petit édifice où on déposait des décors, ainsi que des chapiteaux qui sont présents dans le chœur et dans la crypte. Alors il faut noter un élément relativement intéressant, c'est un chapiteau mérovingien qui a été récupéré et positionné dans la crypte lors des restaurations du XVIIe et qui daterait du VIe siècle après Jésus-Christ, qui est quand même un élément relativement rare et intéressant pour l'église. Pour terminer, les élévations et l'aménagement intérieur datent principalement des XVIIe et XIXe siècles.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les reconstructions du XVIIe siècle ?
Oui, alors on sait qu'au milieu du XVIIe, comme j'ai énoncé précédemment, l'église est quasi totalement reconstruite. Elle était en ruine. Elle est engagée donc à partir de 1648. Elle prend en considération en fait une partie du plan du XIe en la modifiant légèrement. On sait que la nef est amputée d'une vingtaine de mètres. La façade occidentale donc est reconstruite, de même que les voûtes et certains supports de la crypte. Les parties hautes sont rehaussées. Et c'est aussi à cette période que l'ensemble des bâtiments du cloître sont reconstruits.
Et comment intervient la restauration du XIXe siècle dont vous avez parlé tout à l'heure ?
Alors, elle intervient parce que le testament de Monsieur de Reverdy, qui est un personnage important à l'époque, impose aux hospices de Chartres, auxquels il lègue une grande partie de ses biens, en 1845, de rétablir la chapelle de Saint-Martin-en-Val dans son état primitif, donc certainement l'état de la période romane du XIe siècle. Alors, une campagne de reconstruction et de modification de l'édifice est entreprise. Entre 1858 et 1864.
Et concrètement, Bruno, comment s'opère cette restauration ambitieuse ?
Alors, deux choses. La façade est démolie, la nef prolongée d'une travée et demie, les absides du chevet et les bras du transept de l'église du XIe sont réédifiés. Les fenêtres hautes sont également modifiées, ainsi que celles de la crypte. Et on sait qu'une grande partie des chapiteaux du chœur est remplacée aussi. Et enfin, les sols de la nef et des bas-côtés ainsi que du transept sont abaissés de plusieurs centimètres. Et on sait aussi, dans un deuxième temps, que c'est aussi à cette période que les premières fouilles archéologiques sont réalisées sous la responsabilité d'Adolphe Lecoq.
Alors justement, Bruno, pouvez-vous aborder un petit peu les résultats des fouilles archéologiques et tout d'abord celle d'Adolphe Lecoq? Y a-t-il des découvertes ?
Alors, les fouilles d'Adolphe Lecoq ont été pratiquées un petit peu partout dans l'église pour retrouver principalement les fondations en fait, de l'église du XIe. Il a mis en évidence des inhumations, datées des 5e au 8e siècle. Les objets qui accompagnaient les morts ont été déposés dans les réserves du musée des Beaux-Arts, on les connaît encore aujourd'hui. D'accord. Mais il faut aussi signaler que ces interventions menées avec les techniques de l'époque, au 19e siècle, ont largement perturbé d'autres sépultures de différentes périodes.
Donc du coup, Bruno, si je comprends bien, il n'y a plus de fouilles pendant 150 ans après Adolphe Lecoq, et vous êtes les premiers archéologues à réintervenir et réaliser plusieurs campagnes de fouilles sur ce site. Est-ce que vous nous pouvez là préciser vos principales découvertes depuis 2013 ?
Alors, à partir de 2013, on a ouvert un sondage au milieu de la nef, en fonction des trous qu'avait réalisé Adolphe Lecoq pour avoir un secteur donc au minimum perturbé par les interventions archéologiques précédentes. Alors, vous savez peut-être, mais la méthode de fouille fait qu'on remonte le temps, c'est-à-dire que les dernières couches sont les plus récentes, donc je vais vous remonter aussi le temps des différentes découvertes. Les premiers résultats concernent les aménagements liturgiques datés entre le XVe et le XVIIe siècle. On sait que le chœur se trouvait à l'emplacement du sondage archéologique dans la nef actuellement, c'est-à-dire une dizaine de mètres en avant du chœur actuel. Au XIIe, XIVe siècle, on a mis en évidence une grande période probablement de reconstruction, de modification, avec des zones de travail, des zones de débitage du calcaire, des fosses, des potoirs. Et on constate aussi à cette période plusieurs pillages d'inhumations de périodes précédentes. L'église du XIe, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la seule trace qui existe et qu'on connaît actuellement dans ce sondage fouillé, c'est une marche qui est probablement une marche d'accès au cœur peut-être de l'époque. Et pour les périodes des 8e et 10e siècles, alors l'étude est en cours, hein, d'après les résultats de cette année. Il s'agit principalement de niveaux de sol. On en saura un petit peu plus à la fin de l'année.
Donc patience. Mais en attendant, Bruno, est-ce que vous nous avez dit au début de l'émission que les plus anciens vestiges datent de l'époque mérovingienne? De quoi s'agit-il exactement?
Alors effectivement, j'ai parlé d'inhumation. Ce sont principalement des sarcophages de deux types, on va dire, monolithes, c'est-à-dire réalisés dans un seul bloc de roche, qui viennent de Bourgogne, de la région de Tours, et notamment deux qui présentent des décors de croix au niveau de la tête de la cuve. La majorité en fait des autres sarcophages, c'est-à-dire une quinzaine à peu près, est constituée de plusieurs blocs calcaires. Ces blocs calcaires sont intéressants puisqu'ils sont la récupération d'éléments d'architecture du grand sanctuaire antique que j'ai évoqué au tout début de l'émission. Donc ces dizaines de sarcophages ont été ouverts pour certains dès l'époque mérovingienne ou après le XIIIe siècle, comme je l'évoquais dans la question précédente.
Et donc les blocs de calcaire là, utilisés pour ces sarcophages sont les seules traces de la période antique sous l'église?
Oui, on sait que l'installation du premier édifice chrétien à cet emplacement a énormément perturbé le sous-sol et probablement détruit la majorité des vestiges qui restaient de ce grand sanctuaire antique.
Donc peu de traces, mais on va poursuivre l'émission. En tout cas, merci Bruno pour cette visite à travers les siècles de l'Église. On va en profiter pour écouter une nouvelle chanson avant de passer à une autre particularité donc, de cet édifice, qui sont les pratiques funéraires et les sarcophages découverts lors des fouilles. À tout de suite. Retour dans votre émission Histoire et Mémoire consacrée aujourd'hui à l'église Saint-Martin-en-Val. Alors c'est Émilie qui apporte un anthropologue qui prend le relais et qui va nous décrire un petit peu les découvertes. Émilie, À nouveau, bonjour. Vous êtes anthropologue et quel est votre rôle en archéologie ?
L'anthropologue, c'est celui qui va étudier l'homme et son évolution. Il y a plusieurs définitions de l'anthropologie, mais pour ce qui nous concerne, en archéologie, c'est celui qui analyse les données biologiques, les conditions de vie des individus à partir du squelette. Mais il enregistre aussi les structures funéraires qui peuvent être des tombes, des fosses communes, des urnes cinéraires, la position des défunts et des ossements, ainsi que tous les objets qui sont associés comme des bijoux, des vêtements ou des pièces de monnaie. C'est-à-dire en gros tous les éléments qui vont lui permettre d'identifier les gestes effectués par les vivants sur les morts.
D'accord. Et lors de la fouille, à quel moment intervenez-vous ?
Alors on va intervenir dès le départ sur le terrain pour effectuer cette fouille, pour enregistrer le squelette et le mobilier associé, pour prélever les restes humains. Donc en fait, en ce qui concerne la fouille de cette église, on intervient dès l'apparition des premières inhumations. Je suis intervenue avec mon collègue aussi Stéphane Herouin dans cette église et on a fouillé un ossuaire avec un nombre minimum d'individus qui se montait à 14. Cet ossuaire a été constitué a priori au 19e siècle lors des fouilles de Lecoq avec les ossements des sépultures perturbées par la fouille. Nous avons aussi fouillé deux inhumations de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Et puis 14 sarcophages ont pour l'instant été fouillés, ainsi que plusieurs dépôts d'ossements en position secondaire. Donc ce sont essentiellement des grands adolescents et des adultes, hommes et femmes à part égale.
Et est-ce que lors de vos observations, là, du fait d'y être ici dans une église, vous avez relevé des pratiques funéraires plus rares ou différentes de ce qui était connu à l'époque pour les cimetières, par exemple ?
Oui. Alors, ce que nous avons relevé qui est important, c'est que, a priori, il semblerait qu'on ait affaire à une population privilégiée sur l'ensemble de la période du Moyen-Âge. Donc, on va faire un peu comme tout à l'heure, on va remonter le temps. On peut mettre en évidence des pratiques d'embaumement pour la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, avec la découverte d'un crâne découpé, de découpe de sternum pour une exérèse du cœur. Alors attention, cependant, c'est dans un dépôt secondaire. C'est impossible de relier ces pièces osseuses à une inhumation précise, parce que ça a été perturbé. Pour le 14e, 15e siècle, on a aussi une sépulture avec 6 vases funéraires qu'on appelle des coquemars, qui étaient en bon état, qui ont été déposés précautionneusement sur le cercueil, a priori à l'issue de la cérémonie. C'est quelque chose qu'on retrouve facilement pour les inhumations dans les églises, mais beaucoup plus rarement pour les inhumations dans les cimetières. Et ça sert à la cérémonie d'inhumation pour disperser l'eau bénite ou pour l'encens si le coquemar est percé. Et puis pour la période mérovingienne, on a des sarcophages avec des individus qui sont déposés avec des objets, des bijoux, des vêtements et qui ont parfois la tête et les épaules surélevées. Tout ça, ça nous donne des indices pour pouvoir penser qu'il y a probablement une présentation du corps lors des funérailles et qu'on aurait affaire à une élite locale mérovingienne qui va asseoir un pouvoir local à travers les funérailles.
Et montrer un petit peu sa position sociale.
Voilà.
Et est-ce que la fouille des sarcophages, du coup, avec toutes ces perturbations, a été facile pour vous ?
Alors, d'un point de vue technique, c'est pas plus compliqué. En revanche, pour la compréhension, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, parce que les sarcophages ont été réutilisés plusieurs fois, mais ils ont été aussi pillés, probablement parfois dès l'époque mérovingienne, de façon certaine au XIIIe, XVe siècle, et puis par les fouilles du XIXe siècle. Donc en fait, à la fin de la campagne 2016, sur l'ensemble des sarcophages, il y a un seul qui n'avait pas été perturbé.
Alors, quel était-il ? Vous aiguisez un peu notre curiosité là, Émilie.
Donc ce que nous avons mis au jour, qui était encore en place, c'est un tout petit sarcophage de calcaire blanc, de cette période mérovingienne, 5e, 8e siècle on va dire. Il était encore parfaitement scellé et contenait les restes d'un nourrisson dont l'âge au décès était estimé entre 5 à 8 mois.
Donc un tout petit.
Un tout petit. Et l'intérêt de cette découverte, c'est de pouvoir renseigner sur les gestes funéraires qui vont accompagner la mort des tout petits dans cette haute société mérovingienne. Puisque on sait qu'a priori, ceux qui vont inhumer, donc les inhumants, font partie de cette élite locale. Après, à cette période aussi, il faut noter que les rites païens et chrétiens se mélangent encore beaucoup dans les funérailles. Et c'est les études que nous allons mener qui vont nous permettre de décrypter les attentions qui sont réservées à ces tout petits.
Du coup, en quoi cette découverte est-elle particulièrement intéressante ?
Alors, elle est intéressante pour nous parce qu'il est rare de retrouver des tout petits inhumés au milieu de sarcophages d'adultes pour la période mérovingienne. On a une étude biologique du squelette qui permettra de préciser l'âge de l'enfant et aussi de dater au carbone 14 la période du décès. Mmh. Elle donnera aussi des indications sur son alimentation, sur son état de santé au moment de sa mort. Et comme le sarcophage n'avait jamais été ouvert depuis le jour des funérailles, il était vide de sédiments et il a un contenu qui s'est révélé assez riche en matière organique avec des éléments de tissu, de cuir, etc.
Et là donc des études sont en cours. Et qu'est-ce que vous allez aussi découvrir en plus ou davantage sur les pratiques funéraires grâce à ces études?
Alors tous ces restes vont être analysés par des spécialistes pour en savoir plus sur les rites funéraires qui ont accompagné ce tout petit dans sa dernière demeure. Toute cette matière organique préservée devrait permettre de déterminer par exemple si l'enfant avait sous lui une petite paillasse ou un petit matelas, des langes ou s'il était habillé. Et puis si on trouve des restes d'insectes, on peut les confier à un entomologiste, ce qui va permettre de dire si le corps a fait l'objet d'une inhumation ou de discuter de la saisonnalité de l'inhumation.
Et ce bébé, je crois, a été déposé avec des objets, des bijoux?
Il était accompagné d'objets funéraires, il a un petit bracelet en métal au poignet gauche, il avait des perles d'ambre à la hauteur de son épaule droite, deux boucles d'oreilles en pâte de verre avec une attache déposée à droite de sa tête. Et ces éléments vont faire l'objet d'une étude approfondie pour déterminer plus précisément la nature des matériaux, leur provenance, leur datation et leur fréquence dans les tombes d'enfants.
Eh bien, merci Émilie pour cet éclairage sur les pratiques funéraires. C'est sur ces mots que nous allons achever notre émission. Merci Émilie, merci Bruno pour cette présentation de l'église Saint-Martin-en-Val. C'était le premier volet de découverte de ce quartier Saint-Brice. Nous espérons que cette émission vous a plu. On retrouvera Bruno le mois prochain pour la visite sur site des vestiges du sanctuaire de Saint-Martin-en-Val. Donc nous déplacerons le studio au pied des vestiges, rue des Babours. Je vous annonce d'ailleurs que des visites de ces vestiges gallo-romains sont proposées les mercredis 15, 22 et 29 juin à 15h. Donc rendez-vous sur place au sanctuaire. Et en attendant, vous pouvez réécouter l'émission et les précédentes aussi sur le site internet de Radio Grand Ciel et découvrir toutes les autres actualités archéologiques sur le site archéologie.char.fr. Merci à tous. With no goodbyes, I was stuck with those.